I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans les Fous du Volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1. Comme chaque semaine, on est avec notre camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, ça va? Tu t'es pas trop ennuyé le week-end dernier? Il n'y avait pas de Grand Prix.
Non, j'ai fait plein d'autres choses aussi très intéressantes et... On va reprendre, il y avait les 24 heures du monde de toute façon, et puis on reprend ce week-end avec le Grand Prix de Russie.
Exactement.
Donc, c'est reparti pour un tour.
Exactement, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au menu du jour, Stéphane, je te propose en entrée Sébastien Vettel chez Aston Martin, en plat de résistance Alpine, en Formule 1, une histoire française. On reviendra sur l'histoire riche de Alpine et puis où est-ce qu'on peut aller avec donc la firme française. En fromage, je te propose la Formule 1 du sport au chaud et en dessert, Valtteri Bottas, l'heure du sursaut avec un point d'interrogation. Ça sera notre dernier sujet pour aujourd'hui. Mais donc, on débute avec une information qui avait été officiée quelques heures avant le début du Grand Prix de Toscane. C'est l'arrivée, l'officialisation, puisque on le savait déjà, de Sebastian Vettel chez Racing Point, qui va devenir Aston Martin en 2021. Un contrat qui, à la base, est prévu sur un an, avec une possibilité évidemment de le prolonger d'année sur année. Et Stéphane, d'abord, je crois que tu as des informations sur éventuellement des détails de ce contrat qui va lier donc le quadruple champion du monde à l'équipe qui deviendra Aston Martin.
Oui, écoute, Gilles, j'ai vu des choses un petit peu passer et plus exactement une indiscrétion apparemment de Sergio Pérez qui n'a pas été démenti par Racing Point, futur Aston Martin, qui concerne le contrat de Sébastien Vettel, et apparemment les détails du contrat de Sébastien Vettel chez Aston Martin sont assez croustillants. En tous les cas, les circonstances. Pérez dit comment est-ce qu'il a appris que Vettel allait arriver chez Aston Martin et lui prendre la place. C'était en fait juste après le Grand Prix d'Italie à Monza, le dimanche, donc fin d'après-midi. Il rentre à l'hôtel chez lui, il entend un petit peu de bruit, une conversation dans la chambre d'à côté. Il se trouve en fait que cette chambre est occupée par Lawrence Stroll, le propriétaire de l'écurie Racing Point, qui passe un coup de fil à l'avocat de l'écurie, de son écurie, pour finaliser les termes du contrat de Vettel. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un fixe, en fait, $1,5 million par an, ce qui paraît très faible, des bonus en fonction des résultats, et puis un rôle d'ambassadeur pour Sébastien Vettel, pour la marque Aston Martin. Voilà. Donc, lui, il dit qu'il l'a appris comme ça. Il a peut-être laissé traîner ses oreilles près du mur, je ne sais pas, parce que
les murs sont rocambolesque, assez épais, faut le reconnaître.
Voilà, dans des hôtels de qualité. Donc, ça faisait depuis quelques jours, je pense aussi qu'il savait qu'il était dans la chambre juste à côté. En tous les cas, on n'a pas eu de signal au contraire. Donc, pour l'instant, on croit ce que dit Pérez là-dessus. Et on en avait parlé il y a quelques temps, en fait, quand un pilote est en panne de motivation et qu'il a un grand palmarès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner un fixe qui est presque symbolique, et puis des primes de course qui sont alléchantes pour le pousser à se remettre en question, le motiver, avoir des résultats. C'est exactement ce qui s'est passé. On se souvient que Vettel a discuté avec Renault, mais à moitié, parce que Renault a dit on a compris que Alonso était motivé, on n'a même pas trop sondé la motivation de Vettel, donc il était recalé, et Vettel c'est quand même un quadruple champion du monde. Mais c'est un champion du monde un petit peu du passé, des années 2010-2013, dont l'étoile a pâli. Et donc, ils ont trouvé cette solution qui est certainement la meilleure pour les deux parties.
Alors, c'est quand même une sorte de pari hein, pour Sébastien Vettel, parce qu'on rappelle les contacts, et on pense même que la signature s'est faite avant, finalement, que les instances de la Fédération internationale de l'automobile décident que le fait de copier une voiture, ou en tout cas d'acquérir les brevets et les dessins d'une voiture de la saison précédente allaient devenir interdits. Ça veut dire que Aston Martin va devoir fabriquer une Formule 1. Ça se fait pas en l'espace de quelques semaines ni de quelques mois. Est-ce qu'ils sont staffés, comme on dit, pour parler de manière moderne? Est-ce qu'ils ont les structures humaines et même techniques pour parvenir à faire une Formule 1 qui avance suffisamment pour être représentative sur la grille?
Alors, tu poses la question, Gilles, du risque finalement que prend Sébastien Vettel dans tout ça, parce qu'il part un petit peu dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires d'écopes de frein. Alors, ce n'était pas juste ces écopes de frein cette année, c'était juste un exemple d'une partie technique de la voiture assez sensée pour dire, voilà, peut-on copier des choses d'une autre voiture, même de la saison passée? Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire l'an prochain, parce que toutes les écuries ont signé en fait un document comme quoi maintenant la copie massive, je dirais le plagiat, hein, quand il est sur l'ensemble d'une voiture, c'est vraiment un plagiat, est interdit. Mais s'il n'est pas possible de copier la voiture de l'année précédente, en 2021, Aston Martin va peut-être se présenter avec une voiture en disant « Nous, c'est notre voiture de 2020 qui est en fait une copie de 2019, mais on ne pourra rien leur dire. » Alors, je ne sais pas bien. Mais je crois que tout ça, de toute façon, ne fait pas peur à Andy Green qui sait faire des bonnes voitures. Ce transfert de Vettel chez Aston Martin, ce pari me rappelle un autre pari, celui de Damon Hill chez Jordan. Il sortait un petit peu de nulle part, il était déconsidéré, il venait de se faire virer de chez Williams. Après une saison de transition chez Arrows, il s'est fait relancer en gagnant en 98. Et bien en fait, cette voiture était en grande partie faite par Andy Green en collaboration avec Gary Anderson à l'époque. C'est-à-dire que Andy Green, il sait quand même faire des très très bonnes voitures. Il l'a prouvé en revenant chez Force India depuis 2010. Force India a terminé, je crois, deux fois quatrième au championnat des constructeurs avec plusieurs podiums, dont encore cette année. Donc tout ça, c'est solide. Le problème, c'est que le coronavirus est passé par là. Ils devaient lancer la construction d'une usine, ça a pris du retard. Mais ils ont dit qu'ils vont investir plus massivement sur la recherche et développement pour l'année prochaine. Ils vont embaucher 20% de personnes en plus. Donc ce sont des garanties intéressantes, mais pour des résultats, à quelle échéance, ça, c'est la question.
Effectivement. Alors il y a aussi un autre enjeu qui concerne beaucoup cette association entre Aston Martin et Vettel, c'est un enjeu d'image et la preuve qu'on attache beaucoup à tout ce qui va tourner autour de la communication. Donc Racing Point, qui va devenir Aston Martin, a embauché un monsieur qui s'appelle Jefferson Slack pour chapeauter toute la stratégie communication, et c'est ce qu'il avait fait autour de l'empire d'un certain Michael Jordan. Il a plutôt réussi quelques coups assez phénoménaux. Et ce Jefferson Slack s'est aussi occupé d'un club comme l'Inter Milan en football. On voit que, évidemment, pour un constructeur aussi prestigieux que Aston Martin, il va falloir aussi, je dirais, bénéficier de l'image d'un quadruple champion du monde. Et là aussi, il va y avoir du travail, parce que Vettel, ce n'est pas un as de la communication moderne, j'ai envie de dire. Il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, il n'est pas là-dessus. Or, ça va être un axe important de cette nouvelle association.
Oui, ça comble carrément une lacune. Vettel ne fait aucun effort là-dessus. Alors Vettel, il faut le comprendre aussi, il a une vie de famille, il est un petit peu comme Michael Schumacher à l'époque. Les gens chez Ferrari disaient, vous n'imaginez pas à quel point la famille est importante pour Michael Schumacher. Quand il sort du circuit, il ne pense qu'à la famille. Voilà, c'est ce qu'Irvine disait, il dit Irvine. Et je pense que Vettel, c'est un petit peu le même principe. Il n'a pas envie, quand il rentre chez lui, de raconter un petit peu son quotidien, tous les aspects privés. Et il était l'un des derniers, avec Kimi Räikkönen, à ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Même Kimi Räikkönen s'y est mis. Et Vettel, en fait, il ne communique pas là-dessus. Donc, c'est vrai que ça va boucher une petite case qui fait défaut pour l'instant et qui lui conviendra bien dans son rôle d'ambassadeur, je pense.
Donc, on va voir comment tout cela se met en place. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a quand même un gros pari de la part de Sébastien Vettel, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui comment Andy Green va s'organiser pour fabriquer une F1 digne de ce nom pour la saison prochaine. Et alors, il y aura sans doute une transition effectivement en 2021, mais on va dire que ça démarrera véritablement en 2022. Et puis donc tout ce travail de montée en puissance de la marque Aston Martin et de l'association avec Sébastien Vettel qu'il va falloir suivre dans les prochains mois. Évidemment, il va falloir attendre la fin de l'exercice 2021 que Sébastien Vettel enlève une dernière fois sa combinaison rouge pour passer, on ne peut imaginer qu'en vert.
J'aimerais bien le British Green qui que Aston Martin a popularisé sur les pistes d'endurance et spécialement aux 24 heures du Mans. Ces voitures-là sont magnifiques dans cette livrée-là traditionnelle. C'est ce qu'on attend, c'est vrai. On verra si Aston Martin va aussi s'asseoir sur le budget de son sponsor actuel. Ils en sont peut-être capables parce qu'ils viennent de remercier Perez et c'est 10 ou 12 millions d'euros. Donc, ils ont peut-être de la marge à ce niveau-là. On aimerait effectivement que, retrouver un petit peu ce qu'a fait Tony Fernandez avec Lotus, entre nos Lotus et puis Caterham, ce joli vert qu'on attend, qu'on aimerait bien revoir.
On verra ça dans les prochains mois, on le disait. On va passer à un autre sujet, une autre équipe qui maintenant va s'intéresser à 2021, c'est l'arrivée des couleurs de Alpine en Formule 1. Donc on va remplacer les couleurs de Renault F1 par Alpine. Alors, en préparant cette émission, je te disais, Stéphane, que Alpine allait succéder à Renault en Formule 1 et tu m'as dit non, figure-toi que Alpine a précédé Renault à de bien multiples occasions en matière de sport mécanique. J'aimerais bien en deux minutes, tu nous fasses un rapide historique de ce que représente Alpine pour les plus jeunes, parce qu'effectivement, c'est une marque française qui a existé d'abord par le sport.
Oui, tout à fait, Gilles. Dans les années 60, plus précisément, sur les pistes, on n'imaginait pas à quel point cette marque était, imbibée de compétition. Elle était présente en rallye, en sport prototype et en monoplace. C'est l'aventure de la berlinette en rallye, une voiture qui a été championne du monde des constructeurs dès la première année en 73, puis en 75. C'est Jean-Claude Androuet au volant d'une Alpine qui a remporté le premier rallye du championnat du monde en 73, c'est à Monte Carlo. Dans les années 60, ils sont présents aussi en prototype. Ils font de la Formule 2, ils font de la Formule 3. Donc, il y a une vraie tradition qui s'installe. Il faut des moyens. Et là, ça coince un petit peu à la fin des années 60 où le moteur V8 Alpine n'est pas suffisant pour aller chercher la victoire sur un scratch en endurance. Donc là, on dit on arrête tout. L'équipe, enfin cette marque, collabore activement avec Renault, avec Gordini. Et c'est Renault qui leur prend la main progressivement grâce à un moteur, un V6 de 2 litres qu'ils vont construire, sur lequel ils vont greffer un turbo à l'initiative de Bernard Dudot. Et là, ça va être la grande histoire qui va redémarrer en endurance avec une barquette qui va gagner les 24 heures du Mans en 1978, Pieroni Josso, et puis qui va construire aussi sur la base d'une Formule 2 qui était financée par Elf, qui s'appelait la Elf Formule 2, qui va donner naissance à un prototype de Formule 1 expérimental pour voir un petit peu. Et cette voiture va s'appeler l'A500A, c'est la lettre par laquelle commencent toutes les dénominations des Alpines. Et ce proto, c'est A500, avec un moteur turbo Renault Gordini. Et le jour où on présente à la presse l'engagement de cette voiture en championnat du monde, eh bien en fait, elle est passée du noir au jaune, elle ne s'appelle plus Alpine, elle s'appelle Renault. Et c'est l'aventure du turbo en Formule 1, novatrice, qui va démarrer en 77 à Silverstone, et on connaît toute la suite de l'histoire. Et progressivement, Alpine ne suivra pas en championnat du monde des rallyes, et on en restera là aussi sur les pistes des 24 heures du Mans, et c'est Renault qui prendra le relais. Donc là, maintenant, finalement, on boucle la boucle, voilà, entre Renault et Alpine.
Alors, c'est une décision, on va dire, un petit peu politique aussi, hein, du groupe Renault qui souhaite faire de ce nom Alpine, le bras armé sportif, hein, finalement, de la firme aux losanges, en Formule 1, donc on vient de le dire, en endurance aussi, hein, puisque viennent de se terminer les 24 heures du Mans, mais il y aura une Alpine en catégorie LMP1, la catégorie reine, l'année prochaine. On va donc avoir éventuellement un choc entre Toyota et Alpine aux 24 heures du Mans la saison prochaine. Bon, il y aura aussi des questions à se poser. Qu'est-ce qui va se passer après en 2022? Est-ce que Alpine va fabriquer une hypercar ou est-ce qu'elle s'engagera en LMDH? Là, on est un petit peu en marge de la Formule 1, mais ça peut aussi avoir des implications sur le programme de Alpine en Formule 1. On a le sentiment, Stéphane, que c'est depuis toujours chez Ferrari, hein, ce côté très nationaliste. On le sent un petit peu chez Aston Martin, il y a une petite teinte, il y a une petite teinte comme ça. Là, on sent une volonté tricolore chez Renault donc, et chez Alpine de revendiquer ce côté français. Il y a quand même un petit souci, c'est que les châssis de Renault, ils sont faits à Enstone, en Grande-Bretagne. Ils n'ont pas très très envie de chanter la Marseillaise dans les ateliers d'Enstone.
Alors, je pense que Renault ne va pas remettre l'usine châssis qui a maintenant été modernisée d'Enstone à Fresnes, comme c'était le cas dans les années 70, au musée 70, où tout a démarré. C'est vrai que c'est un petit peu troublant parce que Renault, jusqu'à présent, se servait de cette image un petit peu internationale pour vendre la marque Renault à l'international sur tous les continents, ou presque sur des marchés émergents, ce qui était assez important. Donc, ça avait pour moi un petit peu du sens. Et j'ai été surpris de prime abord parce que je me suis dit, Alpine, ça me parle en rallye, ça me parle en endurance, mais moi, en Formule 1, forcément, ils n'ont jamais fait, quoique. Ils avaient construit un peu en secret, en catimini, en 68, un modèle, une Formule 1, à l'initiative de poussée par Mauro Bianchi, qui était le grand-père de Jules Bianchi, et qui avait fait même des essais à Clermont-Ferrand, etc., et qui avait dit cette voiture va 1000 degrés en Formule 1. Et ils avaient essayé de l'inscrire en Formule 1 au Grand Prix de France en 68, et Renault a dit stop, on arrête là, et vous détruisez la voiture. Voilà. Donc le proto a même été détruit. Et donc, c'est un petit peu surprenant, mais on a une approche très marketing finalement. Et chez Renault, globalement, on veut faire émerger la marque Alpine. Et il y a quelque chose d'assez logique dans tout ça, puisqu'on va être dans un univers où il y a Aston Martin, où il y a Ferrari, où il y a Mercedes, où il y a même McLaren. Voilà, et on va se retrouver entre amoureux des belles GT pour faire émerger aux quatre coins du monde en fait une image bleu-blanc-rouge. Et finalement, Alpine, c'est. L'écurie bleu-blanc-rouge qu'on attendait, un petit peu comme ce qu'on avait dans les années 70 et 80 avec Ligier, qui prenait beaucoup de pilotes français, ce qu'on a eu pendant trop peu de temps avec Prost aussi, et on va retrouver ce petit bleu métallisé que la Prost avait au début des années 2000. Je trouve que c'est sympa. Alors, on referme une grande page de l'histoire de Renault, mais on ne sait pas, ça reviendra peut-être dans quelques temps, on va peut-être... Ce que je trouve un petit peu aussi dommage, c'est que Renault a essuyé les plâtres, finalement, du retour en Formule 1. Et ils ne vont pas toucher les dividendes de tout ça en termes d'image. On a peut-être pu attendre un ou deux ans que ça fasse un podium, que ça gagne, et puis après, on shift sur Alpine. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a des gens qui ont un programme très précis et qui parlent surtout à une communauté vraiment d'amoureux de la marque Alpine. Et je trouve ça génial.
Alors, Alpine a aussi récupéré de manière un petit peu inespérée un ambassadeur de marque en la personne de Fernando Alonso qui rejoindra l'équipe la saison prochaine. On termine ce sujet par ce point. On a entendu, on a lu ici et là que Alonso pourrait éventuellement monter dans la voiture dès la fin de saison lors des séances d'essai sur certains Grands Prix. Est-ce que c'est crédible pour toi? On pense évidemment qu'il prendra la place de Daniel Ricciardo. On va pas faire descendre Daniel Ocon. C'est crédible pour toi?
Alors, pour faire vite, Alonso, il a dit aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin pour ma motivation de monter absolument dans une voiture. Si il y avait debout la vie, si c'est pour lui faire passer deux trains de pneus à vendredi matin, ça sert pas à grand chose. Mais Alonso a dit, moi, je serai Imola au travail pour Renault. Je serai à Abu Dhabi au travail pour Renault. J'écouterai tout. Je vais essayer de déjà me faire une idée de la façon dont l'écurie travaille. Je pense que c'est déjà le cas parce qu'il peut aller dans la Aviry ou Enstone et entendre toutes les conversations, tout ce qu'il dit sur un week-end. Renault essaie de le faire admettre aussi dans les roulages des jeunes pilotes à Abu Dhabi juste après le dernier Grand Prix. Je ne sais pas si ça fonctionnera trop, mais allez, faisons un petit rêve aussi. C'est Jean Todt a dit ce week-end qu'il allait éviter les clashs entre Le Mans et la Formule 1. Alors, pourquoi pas aussi Alonso chez Alpine dans l'MPR l'an prochain. Je trouve que ça serait déjà un beau lancement pour la marque en Formule 1, en endurance. Là aussi, ce sera absolument magnifique.
Ouais, ça, on verra, c'est Cyril Abitbol qui tranchera, mais c'est sûr que si on met déjà Esteban Ocon et Fernando Alonso dans l'Alpine LMP1 au Mans, ça fera aussi en termes de retombées de toute façon assez énorme. Là aussi, il va falloir faire preuve de patience et voir, mais il y a plein de choses prometteuses, hein. Vraiment, on sent que ça bouge en ce moment dans le monde. Là, c'est resté figé dans cet univers et de la Formule 1 et du sport mécanique pendant des mois, et on a bien compris pourquoi. Et là, on sent que ça phosphore. Il y a plein de choses qui sortent dans tous les sens, et ça va vraiment être très, très, très intéressant de voir ce qu'il en sort. Et on sera là, évidemment, pour essayer de vous aider à décrypter tout ce qui bouge en ce moment. Un des points qu'on voulait évoquer depuis un long moment dans Les Fous du Volant avec Stéphane Vrignot, c'est cette tentation de la Formule 1 de verser vers le show, vers le spectacle, et d'abandonner un petit peu les règles qui font la Formule 1 depuis des décennies. Alors il y a eu une sorte de guéguerre entre Mercedes et Michael Massi, hein, le directeur de course des Grands Prix de Formule 1 lors du Grand Prix de Toscane, notamment. Moi, je suis un petit peu mitigé, pour tout te dire, Stéphane. J'ai quand même un petit peu parfois le sentiment qu'il y a une vieille Europe, un petit peu à la manière, tu sais, de Dominique de Villepin à l'ONU, qui revendique ce côté un petit peu vieille Europe, tradition, face à une société, donc Liberty Media, qui a acheté les droits de la Formule 1 il y a quelques années, qui est donc une société américaine, qui arrive avec sa culture et qui a envie aussi de changer des choses, de modifier des déroulements d'épreuves. On voit régulièrement Ross Brawn, alors qui n'est pas américain du tout, mais qui s'est finalement fait la voix de son employeur, revendiquer régulièrement que ça serait pas mal de faire une grille inversée en Formule 1. Il avait pris notamment l'exemple de Monza, où on n'a pas absolument pas inversé la grille et ça a donné un Grand Prix fabuleux. Donc c'est une sorte de contre-exemple qu'on n'a pas très très bien compris sur le fond, mais qu'importe. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane, toi ? Est-ce qu'il faut changer des choses en Formule 1 ?
Alors Gilles, tu parlais effectivement de cette guéguerre Mercedes-Michael Massi. Vettel a volé au secours de Mercedes il n'y a pas très très longtemps, en disant effectivement c'était inepte, c'était une anomalie. C'est un problème de vouloir pousser la safety car à accompagner le peloton jusqu'au dernier moment et à mettre en danger, je veux dire, le leader de la course sur un restart, qui risque en fait de se faire l'aspiration et de tout perdre. Donc ça, Mercedes est foncièrement contre. Et puis Vettel aussi contre la grille inversée. Si on cite exactement ce qu'il a dit, les noms d'oiseaux vont voler. Et Toto Wolff a dit, l'I1, c'est pas du catch ou de la télé-réalité. Il ne faut pas fabriquer à tout prix des résultats inédits pour donner le sentiment que ça change. C'est aussi simple que ça. Alors, l'exemple de Pierre Gasly à Monza, c'est le parfait exemple qu'un pilote, quand il réussit un coup stratégique que les autres ne peuvent pas copier, il peut en avoir le bénéfice jusqu'à la fin et ça fait une différence tout de suite. Aujourd'hui, pour faire perdre, entre guillemets, Hamilton, on compte sur Bottas, on compte sur Verstappen, donc on pourrait compter sur Sainz, sur Norris, sur plein d'autres pilotes. Et sur cette base-là, il y a 10 pilotes qui peuvent gagner. On a dit que si on coupait la radio et qu'on laissait les pilotes faire, prendre leurs décisions, ils pourraient prendre des mauvaises décisions et donc ouvrir des possibilités pendant une course. La grille inversée, moi, je trouve que c'est vraiment too much. C'est de la course un petit peu artificielle. Même George Russell, qui est souvent dernier sur la grille, dans les derniers, est contre. Parce qu'il a dit que ce serait ridicule, franchement. Tout le monde essaierait de me dépasser. Ça serait pas très, très intelligent de faire ça. Mais derrière ça, je dirais qu'il y a autre chose. Il y a la suppression de la qualif pour faire une course de qualification le samedi et pour faire une course normale le dimanche. Donc, course 1, course 2 par week-end. À raison de 25 week-ends dans l'année, c'est vraiment l'objectif. Ça nous ferait 50 courses dans l'année. Je ne comprends pas bien où on va. Tout ça pour essayer d'avoir 3, 4, 5, peut-être 10 vainqueurs différents. Je trouve que non, il faut travailler sur autre chose. Moi, je dis juste, c'est laissons la course aux pilotes. Au départ de la course, les équipes ne doivent plus intervenir.
Je suis d'accord, mais alors, peut-être qu'effectivement, l'inversement de la grille, ça se discute, surtout qu'en monoplace. Alors, ça marche très, très bien dans des disciplines comme le championnat du monde des voitures de tourisme, la coupe du monde des voitures de tourisme, mais on comprend bien que sur des monoplaces, c'est quand même un peu plus dangereux. Bon, cela dit, ça marche quand même en Formule 2, donc je ne suis pas aussi strict que toi. Mais interdire les relations radio autres que pour événements exceptionnels et pour des informations de sécurité. Ça remettrait aussi les pilotes au centre vraiment de la bagarre, les plus intelligents, les plus rusés, ceux qui arrivent à avoir le plus de hauteur de vue sur les événements pourraient en tirer leur épingle du jeu. Je pense que ça peut aussi être une belle piste, paradoxalement, pour remettre l'humain au centre. Et donc forcément, ça créerait des rebondissements.
Alors, Toto Wolff, le boss de Mercedes, ne veut pas de cette grille inversée. mais il ne veut pas non plus lâcher les clés de la course pour les donner à ses pilotes et ne pas
être en spectateur. C'est logique, mais lui, il gagne, voilà. Il gagne, donc lui, il veut qu'on change rien, c'est sûr.
Mais alors, sa réponse, c'est un écran de fumée, parce que lui dit, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les équipes, beaucoup de palabres que les fans, finalement, voudraient bien connaître, comprendre, avoir en direct pour comprendre le déroulement d'une course. Le spectacle, il faut le faire sur la piste. Voilà. C'est pas une question de mettre des écouteurs, d'entendre des conversations radio de pilotes qui se plaignent, de choses qui sont complexes, ça tient à des stratégies, à des types de pneus, etc. On se perd là-dedans. Si on veut élargir la base de fans de la course, il faut juste montrer un spectacle avec des rebondissements, des choses imprévues, des défaillances de pilotes. Voilà, il y a juste ça, c'est devant nous, on peut saisir cette occasion, vraiment en coupant la radio. Je dirais une deuxième chose, c'est que en qualif, par exemple, Hamilton, il a 9 chances sur 10 de faire une pole position. On lui donne 2 chances déjà en Q3. S'il se rate sur son premier run, il a un deuxième joker qui peut abattre et faire quand même la pole position. Et puis, la qualif, pour moi, c'est quelque chose qui est illisible. Tout se passe en 1 minute 30 sur le deuxième run où ils sont tous espacés à peu près de 10 secondes. Et on a l'état intermédiaire de 2, 3, 4 pilotes et c'est un flot de voitures qui passent. On ne sait plus où est telle ou telle voiture, qui commence son tour, qui termine. Je trouve qu'il faudrait simplifier ça. À la fin de la Q3, on retient les 5 meilleurs et on leur fait faire un tour chrono unique pour une voir.
Sorte de super pole.
Voilà, tout à fait. Là où ils sont tout seuls, pas de question d'aspi, il n'y aura plus de trafic, forcément. Et je pense que tout le monde serait satisfait. On a essayé ça au début des années 2000, mais en fait, on faisait passer tout le monde. Alors, voir le 15e ou 18e passer sur son tour unique, ce n'était pas très intéressant. Voilà. Donc, on peut faire une Q4 là-dessus. Alors, j'entends bien, il ne faut pas faire une Q4 pour faire une Q4, mais pour apporter quelque chose, corriger un défaut ou un problème. Vettel l'avait dit il y a 2-3 ans, mais alors une Q4, pourquoi pas, mais on va faire une Q5, une Q6. Enfin, il avait ridiculisé un petit peu la proposition Liberty Media qui voulait rajouter un petit peu du show. Non, il faut vraiment préserver l'ADN de la
Il dira course, peut-être autre chose quand il sera chez Aston Martin, d'ailleurs.
Voilà, tout à fait, Gilles. Mais Brown, en fait, l'a dit qu'il ne veut pas toucher à l'ADN, donc on ne touche pas au format qualification, et on respecte aussi les fans. Et les fans ont dit dans 2 sondages, clairement, massivement, qu'ils ne veulent pas d'une grille inversée.
Donc on reste donc attaché à la aux traditions de la Formule 1. On a évoqué, hein, par contre, sur certains Grands Prix, la possibilité d'avoir un format de qualification qui ressemble un peu à celui d'Indy, hein, c'est-à-dire d'Indianapolis, pour éviter que certains pilotes de la même équipe travaillent ensemble, se donnent l'aspiration que, en fait, les pilotes passent un par un, comme ça se fait lors des séances de Super Bowl. Ça peut, on respecte la tradition. C'est celui qui va le plus vite qui partirait devant en Formule 1. Il faut quand même qu'on essaye de changer des choses. L'audience de la Formule 1 ne rajeunit pas, je vous le rappelle. Et on a besoin de renouveler quand même un petit peu les cadres. Bref, c'est un sujet que je sais qu'il te tient beaucoup à cœur, qui tient beaucoup à cœur d'ailleurs aux amateurs de Formule 1. Ça, c'est un sujet très, très, très sensible. Et on y reviendra. Juste pour conclure, l'Automobile Club de l'Ouest a fait évoluer cette année le format de qualification des 24 heures du Mans qui fêteront bientôt leur 100e anniversaire. Donc, la tradition, on peut aussi la faire un tout petit peu évoluer. C'est le message final de ce chapitre. On va évoquer, alors qu'on est tout près maintenant du début de la 10e épreuve de ce championnat du monde 2020 de Formule 1, le Grand Prix de Russie, un pilote, Valtteri Bottas, avec une question: est-ce que c'est l'heure du sursaut pour le Finlandais? Alors, on fait le point d'abord. Valtteri Bottas est deuxième du championnat à 55 points de Lewis Hamilton. Et dans la carrière de Valtteri Bottas, la Russie, c'est plutôt un terrain qui lui a réussi. Il y a eu 6 fois le Grand Prix de Russie depuis qu'il est en Formule 1. Il est monté 4 fois sur le podium, dont une fois avec Williams, ce qui est quand même pas mal. Il compte une victoire et on pourrait même lui en attribuer une seconde, hein, puisqu'il avait cédé sa place en 2018 à Lewis Hamilton. Mis à part l'Autriche, grosso modo, c'est un des Grands Prix qui lui réussit le plus. Donc, il reste 208 points à attribuer, 55 points de retard. Si ce n'est pas là, ça va être un petit peu tard. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement? Valtteri Bottas, il avait bien débuté la saison. Et puis, ça a coincé encore une fois, j'ai envie de dire.
Valtteri Bottas, il a tout mis sur le premier Grand Prix, après on n'a rien vu, ou presque. Gilles, on a eu 9 Grands Prix, il a été dominé 7 fois en qualification par Hamilton, c'est énorme, c'est trop pour espérer quelque chose ensuite. Sur ses départs aussi, il s'est raté quand même massivement 2 fois. Il y a un départ en Hongrie où il perd 4 places, à Monza aussi, il perd 4 places. Il en perd 2 en Espagne et puis au Grand Prix de Toscane, au dernier Grand Prix.
Il a résisté 2 fois quand même.
Exactement, et ça veut dire qu'il faut être vraiment parfait à chaque fois contre Lewis Hamilton, parce qu'autrement, ça ne pardonne pas. Il a aujourd'hui, tu l'as dit, 55 points de retard depuis l'instauration du nouveau barème. Il n'y a qu'une seule fois où on a eu un écart plus grand, c'était 2011. J'ai regardé Vettel sur Weber, il y avait 80 points. Mais autrement, ça tourne autour de 35 points pour Bottas ces dernières saisons, depuis qu'il est chez Mercedes, en fait, sur Vettel ou sur Hamilton. Je vois aussi que j'ai compté, il y a eu 538 tours de course cette année, il en a passé 126 devant Hamilton, ça fait moins d'un quart. Moins d'un quart. Là aussi, c'est pareil, on ne peut rien espérer, c'est ça le souci. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu chez ce garçon, c'est que quand il est bien positionné quand même sur la grille, il se loupe. Et il se loupe pour des explications un petit peu curieuses en Hongrie. Il dit qu'il est en train de, il est troublé par une diode qui s'éteint sur son tableau de bord et qu'il la confond avec la rampe de feu du départ. Alors ça, c'est confondant, c'est juste pas possible. À Monza, il prend encore un mauvais départ et il dit j'ai fait le premier tour le moins inspiré de toute ma carrière. Là, c'est sûr, là il passe encore de la deuxième à la sixième place. Et puis en Toscane. Hamilton a juste été meilleur que lui et encore, il a battu Hamilton sur le premier départ parce qu'Hamilton était en pole, mais c'est plus Hamilton qui loupe son seul départ de l'année. Voilà. Donc, sur Bottas, la problématique, c'est vraiment, je dirais que c'est un petit peu le syndrome qu'avait Weber par rapport à Vettel, si tu te souviens bien, Gilles, chez Red Bull, Weber était bien placé, quand il était bien placé sur la grille, il ratait son départ, il gâchait tout de suite. Eh bien, c'est ça, il faut résoudre tout de suite, il faut se débarrasser de ce syndrome Weber, impérativement.
Est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant pour Valtteri Bottas pour quelque part réagir et inverser la tendance? Il a 31 ans, on le sent, il est devenu un numéro 2, un petit peu comme Rubens Barrichello. Il y en a des pilotes comme ça. J'ai le souvenir, moi, Stéphane, il y a quelques années, je couvrais le championnat du monde des rallyes et lors de l'épreuve où Sébastien Loeb bat le record du nombre de victoires en rallye, évidemment, il y a une grande conférence de presse et c'est assez impressionnant de voir ce grand champion abattre tous les records comme ça. Et à côté, il y a Mirko Hirvonen, qui est quelqu'un de très discret, mais qui a un humour exceptionnel et qui, au début de sa réponse, dit « Moi, je vais bientôt battre le nombre de deuxième place en championnat du monde ». C'était terrible parce que, en fait, quand vous êtes deuxième derrière, alors un Sébastien Loeb pour Hirvonen, mais pour Bottas, c'est derrière Hamilton, il est deux fois vice-champion du monde de Formule 1. Franchement, on serait quelques-uns à être fiers de ce palmarès. Et pour lui, c'est un échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas bouger? Est-ce qu'il ne faut pas tout changer dans sa façon de voir les choses? Parce qu'on a l'impression que, de toute façon, il ne trouvera pas la riposte.
Là, il a été contacté par Renault, ce qui était quand même intéressant, mais Renault a dit on ne va pas le prendre parce qu'on sait qu'il veut continuer à saisir sa chance d'être champion du monde chez Mercedes. Tu l'as dit, Gilles.
Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est une véritable chance d'être chez Mercedes en même temps qu'Hamilton?
Oui, parce que Irvine est failli être champion du monde aussi sur un concours de circonstances en 99 quand Michael Schumacher malheureusement a eu son accident, s'est cassé une jambe à Silverstone, il est devenu numéro 1 avec un numéro 2 qui a donné d'ailleurs une victoire au Grand Prix d'Allemagne en 99. Enfin, tout était fait pour lui, Michael Schumacher est revenu, il roulait pour lui et Irvine a failli être champion du monde, il est passé à deux points près. Donc Bottas a été deux fois vice-champion du monde comme Barrichello chez Ferrari quand même en 5 ans au top, donc le ratio est quand même pas très bon. Je dirais, et c'est ça son souci, et finalement c'est lui qui rend les courses ennuyeuses, parce que s'il challengeait Hamilton, on ne se sentirait pas qu'Hamilton est tout seul sur sa planète. Alors il y a quelque chose que vient de dire récemment Helmut Marko chez Red Bull, il a dit nous on est sûr d'avoir Verstappen jusqu'en 2021, en voulant dire après on n'en sait rien, et on sait qu'il y a des clauses de performance, et là on a quasiment tous les jours une information, une déclaration de de quelqu'un dans l'entourage ou même de Verstappen qui dit qu'il est très très mécontent de la situation actuelle. Tout le monde rêve d'un duo Hamilton-Verstappen. Je pense que ça sera pour peut-être 2022 si chez Mercedes on veut bien mettre l'argent sur la table.
Mais toi, tu verrais Bottas faire le chemin inverse, aller chez Red Bull, ça paraît un petit peu antinomique, je trouve.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça serait sur la base d'un échange. Après, Bottas se retrouverait sur le marché. Mais je trouve que c'est là-dessus maintenant et que, quelque part, Bottas ne fait pas assez le job.
En tout cas, on le disait, hein, c'est un Grand Prix en Russie qui lui réussit plutôt généralement. Sauf que là, il y a une séquence qui peut être très, très, très intéressante et pour Mercedes et pour Lewis Hamilton. Parce que si Hamilton gagne en Russie, il sera donc à 91 victoires et il pourrait alors battre le record, être le seul détenteur du record du nombre de victoires en Formule 1 pour le Grand Prix qui se déroulera en Allemagne au Nürburgring. L'histoire est belle. Là, il va falloir qu'il soit très, très fort, Bottas.
Moi, j'attends peut-être un geste fort de Lewis Hamilton qui peut remporter sa 91e victoire ce week-end.
La victoire de 2018
Alors, il avait déjà redonné une troisième place en Hongrie à Bottas. Et j'attends effectivement qu'Hamilton rembourse son emprunt russe de 2018 envers Bottas et lui redonne une victoire au même endroit 2 ans plus tard. Ça serait fort. Voilà, il pourrait toujours après égaler ce record au Grand Prix suivant. Ça nous changerait un petit peu et ça nous montrerait que les pilotes ont la mémoire aussi.
Eh bien, ça serait très, très beau, mais alors j'y crois absolument pas. On verra ça ce week-end. On s'arrête là. Le Grand Prix de Russie, attention, hein, horaire un petit peu particulier avec le décalage horaire pour cette 10e épreuve de la saison. La qualification aura lieu samedi à partir de 14h et le Grand Prix dimanche, c'est 13h10 et non pas 15h10 comme habituellement. Voilà, on a fait le tour. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, je le disais, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. Donnez-nous des étoiles, allez-y, 5 étoiles, lâchez-vous, vous pouvez vous abonner et comme ça vous recevrez directement le podcast chez vous sur votre application chaque semaine. On a tout dit, Stéphane, c'est bon pour toi ?
Oui, vivement la prochaine des Philippe Boulin.
Exactement, à la semaine prochaine, coupez le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.